10h29. Pour leur magazine littéraire, le livre Ouverture sur la vie, Monique Bermond et Roger Bouquier nous proposent aujourd'hui une rencontre avec Marie-Pierre et Michel Mathieu Collat, co-auteurs du dossier Club des Cinq, paru aux éditions Magnard, l'école dans la collection Lecture en liberté. Participe à cette rencontre Odile Martine, bibliothécaire.
Marie-Pierre et Michel Mathieu Collat, vous avez entrepris un travail assez colossal. À propos de votre dossier du Club des Cinq, nous en parlons tout au cours de cette émission. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce qui vous a amené à entreprendre une étude. Marie-Pierre, vous êtes bibliothécaire. Est-ce que c'est le fait d'être bibliothécaire qui vous a donné envie de vous pencher sur le Club des Cinq?
J'étais une lectrice passionnée du Club des Cinq quand j'étais enfant. Et quand j'ai commencé mes études de bibliothécaire, j'ai été très surprise de voir les réactions contradictoires que suscitait le Club des Cinq. J'ai donc eu envie de fouiller l'œuvre de Denis Blyton. Et de plus, par mes études universitaires, j'avais été formée à l'analyse du récit. J'ai donc eu envie d'analyser cette série.
En fait, vous vouliez vérifier qui était dans le vrai, oui. Vous en tant que lectrice ou bien les critiques.
C'est un petit peu ça.
Je pense qu'on reviendra au cours de l'émission là-dessus. Et Michel Mathieu Collat?
Oui, alors quant à moi, mon parcours est très différent. Puisque je n'ai pas lu le Club des Cinq étant enfant, et d'autre part, je n'étais pas amené à le lire par mes fonctions, puisque j'enseigne à l'université et qu'on n'y étudie pas, en principe, en tout cas pas encore, le Club des Cinq. Bon, j'ai été sensibilisé, en fait, à la série, beaucoup plus simplement, par Marie-Pierre. Et dès que j'ai abordé ce problème, j'ai été impressionné, j'ai été fasciné, peut-être, par le phénomène d'édition qu'il représentait, par le phénomène sociologique en quoi consistait son succès, et interrogé également par les réactions contradictoires des critiques et par les remous, en quelque sorte, qu'avait suscité la série. Donc, c'est à partir de mon étonnement que j'ai été amené, en collaboration avec Marie-Pierre, à essayer de comprendre un peu ce phénomène. Pourquoi les enfants adorent-ils le Club des Cinq? Pourquoi les critiques le jettent-ils aux orties?
Oui, vous dites des contradictoires des critiques, pas tellement. D'ailleurs, quand on regarde le chapitre où vous nous donnez
ce
la parole,
c'est
d'ailleurs très amusant parce que nous ne nous sommes pas concertés les uns les autres et on dit des choses finalement assez voisines.
Oui.
Par exemple, quant à la tolérance.
Oui, je crois que vous êtes presque tous d'accord.
Oui, par contradiction, j'entendais d'abord contradiction entre le point de vue des enfants
Et
celui des adultes.
C'est ça.
C'est peut-être la réflexion que j'ai voulu poursuivre.
Si
mon souvenir d'enfant et ma position de bibliothécaire.
On reviendra peut-être.
Absolument.
Oui, et nous avons invité une bibliothécaire, Odile Martine, pour justement avoir un autre avis sur le Club des Cinq.
Je n'ai pas lu le Club des Cinq, et ça manque beaucoup, c'est certain, parce que la vision qu'on peut en avoir en tant qu'adulte est forcément tout à fait différente. Mais
Vous n'en avez pas lu enfant, vous n'en avez
lu
depuis.
J'en ai lu depuis.
Oui.
En voyant paraître ce livre, vraiment, j'étais tout à fait satisfaite parce qu'il est certain que dans le milieu des bibliothécaires et des gens qui se penchent sur la littérature enfantine, le Club des Cinq, c'est la pomme de discorde. Et pour moi, c'était intéressant d'avoir enfin quelqu'un qui avait le courage d'étudier les choses à fond.
Et il faut le dire très objectivement.
Oh, absolument. C'est un travail d'une rigueur.
Et un travail colossal, parce que vos recherches vont très très loin. Vous avez donc travaillé également sur l'édition anglaise.
Oui.
Sur l'édition anglaise, et bien entendu sur les rapports entre l'édition anglaise et les éditions françaises, puisque certains titres ont donné lieu jusqu'à 8 présentations. Je crois que par quelques bouts qu'on prenne la question, on est absolument impressionné par l'ampleur du phénomène. Je crois qu'il faudrait rappeler les faits très brièvement. Savoir qu'Enid Blyton a publié d'abord plus de 600 ouvrages, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et que ces 600 ouvrages, qui plus est, ont donné lieu à une diffusion internationale que peu d'écrivains dans le monde ont connue. D'abord, ils ont été traduits dans des dizaines de langues, et d'autre part, nous sommes amusés à confronter les scores, en quelque sorte, des différents écrivains sur le plan international. Et sur le plan international, Enid Blyton vient à égalité avec Agatha Christie, avec Simenon, avec Shakespeare, avec Marx, Tolstoï, Dostoïevski, enfin toutes sortes de gens qui sont beaucoup plus connus. Donc un phénomène sur le plan international. Pour ce qui concerne plus précisément le Club des Cinq, je rappelle qu'il y a 21 titres qui, bien entendu, ont connu d'abord un succès en Angleterre même et dans les pays anglophones, qui ont rayonné également dans tous les pays, notamment en Europe. C'est la Suède, je crois, et l'Allemagne qui ont été les premiers à traduire le Club des Cinq. Et enfin, pour ce qui concerne la France, je rappellerai que les 21 titres ont été traduits en ordre dispersé en une dizaine d'années. J'insiste sur cet ordre dispersé parce qu'on présente souvent le Club des Cinq, le volume qui a pour titre le Club des Cinq, comme le premier de la série, alors qu'en fait c'était le deuxième, et que le premier a été traduit en 15e position, ce qui vous donne déjà une idée des rapports entre l'anglais et le français. Bon, donc les 21 titres ont été traduits en une dizaine d'années, et actuellement on peut évaluer la diffusion, le nombre d'ouvrages vendus en France à environ 15 à 20 millions, une fourchette qui irait de 15 à 20 millions. Sans compter la nouvelle série, parce que depuis...
Oui, parce que maintenant, il n'y en a plus de 21.
Depuis 71, Hachette a repris le flambeau et a confié à un écrivain français, cette fois Claude Voilier, la création, avec l'accord, bien entendu, de Enid Blyton, à titre posthume d'ailleurs, a confié donc à Claude Voilier le soin de réaliser une suite. Une suite qui a déjà dépassé l'ancienne série, puisqu'il y a 22 nouveaux titres, la fameuse série imagée. À partir de là, ont été créées des adaptations, ça a été adapté sur cassette, on a réalisé des disques, on a réalisé des émissions de télévision, adaptées du Club des Cinq, des émissions de radio, pas sur France Culture, mais il y a eu des émissions de radio.
Pourquoi ne pas exploiter un bon filon
Exactement.
Depuis quelques mois, des bandes dessinées, bref, quelque chose de considérable.
On est vraiment là au cœur d'un produit.
D'un produit, exactement.
Simplement, ce qui est à remarquer, c'est que par rapport aux autres séries d'Enid Blyton dans la Bibliothèque Rose, c'est le Club des Cinq qui a le mieux marché, avec au départ une même diffusion, puisque c'était la collection Rose et que c'était diffusé de la même façon. Donc ça m'intéressait particulièrement parce que ça se démarquait en plus des autres.
Mais alors, je voudrais savoir, puisque vous avez, vous, un point de comparaison, Marie-Pierre, vous aviez un souvenir ému, si je comprends bien, de votre lecture d'enfance, et vous avez été amenée à décortiquer ô combien tous les mécanismes de ces clubs des cinq. Est-ce que, quelque part, maintenant, vous avez un avis complètement différent? Est-ce que vous dites, comment, étant enfant, ai-je pu fonctionner là-dessus? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez mieux compris le mécanisme de la lectrice enfant?
Et est-ce que vous engageriez vos enfants à lire le Club des Cinq?
Je crois que j'ai certainement mieux compris le fonctionnement et ce qui me plaisait étant enfant. Je le pressentais, mais disons que j'ai pu vérifier certaines choses. Effectivement, le rapport au personnage était évidemment très fort. L'évasion, ça se passe pendant des vacances. Il y a tout un côté de l'aventure. Bon, c'est une lecture facile, c'est vrai, dans laquelle on retrouve aussi les mêmes personnages. Donc, si on les aime, si on s'identifie un tant soit peu à eux, on aime les retrouver. Bon, maintenant, de là à lire 21 titres, je pense qu'on peut faire une certaine différence maintenant. Et que si j'ai lu, moi, enfant, tous ces titres, c'est aussi que je n'avais pas grand-chose d'autre à ma disposition. Si j'avais pu avoir une bibliothèque avec Colette Vivier, je pense que j'aurais aimé autant Colette Vivier. Je pense cet exemple parce que c'est l'un des premiers que j'ai commencé à lire quand j'ai fait mes études et j'ai regretté de n'avoir pas pu connaître Colette Vivier quand j'étais enfant.
Mais est-ce que justement le chiffre colossal que vous émettiez tout à l'heure, Michel Mathieu-Collat, est-ce que ça ne provient pas du fait de cette sorte de mépris qu'ont les adultes, qui sont les premiers acheteurs, bien sûr, des livres, pour la lecture de leurs enfants? C'est-à-dire, bon, c'est bien suffisant. Bon,
il y a un principal, c'est qu'ils lisent.
Le principal, c'est des lectures de vacances, c'est de la détente. Et souvent, des parents nous opposent cela. Disent, mais pourquoi vous voulez toujours demander aux enfants qui se cassent la tête sur des livres? C'est de la détente. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque part ce fonctionnement-là?
Je pense que de la part des parents, c'est certain. On pourrait d'abord, avant même les parents d'ailleurs, tenir compte, vous parliez de produits tout à l'heure, du phénomène commercial que cela est représenté. La diffusion en est considérable. On trouve le Club des Cinq dans tous les kiosques de gare. Donc, il y a une sollicitation antérieurement, en deçà même des parents.
On ne peut pas dire autant des types de Colette Givier ou d'autres auteurs.
Donc, il y a déjà une sollicitation sociale à la lecture du Club des Cinq. Bon. Alors, les parents, par rapport à cela, sont relativement neutres, effectivement. Ils sont très contents si leurs enfants lisent. Mais je ne crois pas que cela suffise à comprendre l'ampleur du phénomène. Parce que les parents peuvent acheter aussi bien d'autres livres, mais les enfants préfèrent le Club des Cinq. Pourquoi ? C'est ça la question énigmatique, en quelque sorte, qu'on essayait de poser. Pourquoi les enfants préfèrent le Club des Cinq et pourquoi en redemandent-ils ?
Préfèrent-ils vraiment le Club des Cinq ? Est-ce qu'ils sont en situation de choix ? En bibliothèque, par exemple, où vraiment le choix est considérable, je dois dire que récemment, nous avons relativement peu de demandes de Club des Cinq. Et si on regarde la feuille de sortie qui marque le nombre de prêts, ils sont plutôt moins empruntés que beaucoup d'autres titres.
C'est très difficile d'en tirer des conclusions parce que ça ne veut pas dire que par ailleurs les enfants ne les lisent pas chez eux. On entre dans un phénomène d'enquête où on n'arrive pas à cerner bien le problème. On peut très bien lire le Club des Cinq et peut-être lire aussi autre chose. Reste à savoir s'il ne faut lire que ça.
Mais dans votre analyse, il y a évidemment 1000 pistes. On ne peut qu'encourager les personnes qui écoutent notre émission de lire votre dossier parce que c'est un travail colossal. Vos pistes, c'est la confrontation des personnages, c'est les rapports enfants-adultes, c'est
Idéologies.
Oui, les idéologies. Oh, combien j'aimerais quand même qu'on en parle, parce que sinon on va faire une émission positive sur le Club des Cinq et ça serait quand même...
Je crois que c'est quand même l'un des problèmes les plus importants.
Un des grands défauts. Et peut-être le simplisme de l'écriture. Et je me demande tout de même si ça n'est pas ça un des succès. Vous savez, quelquefois, dans des débats à propos d'autres livres plus élaborés, les enfants disent qu'on ne peut pas sauter un passage. Il faut vraiment lire tout ce qui est écrit pour bien comprendre. Je crois que dans le Club des Cinq, étant donné que vous le dites bien dans votre analyse, il y a un côté extrêmement stéréotypé. Les personnages sont forcément stéréotypés, vu le nombre de romans, automatiquement on retrouve les mêmes caractéristiques. Les situations sont identiques, vous le dites bien également. Est-ce que ça n'est pas justement vers cette immense facilité de lecture que le jeune lecteur va préférentiellement ? Est-ce que ça ne serait pas une des causes ?
C'est une lecture effectivement de consommation rapide. C'est une lecture qu'on dévore. On a souligné le rôle de la nourriture dans le livre, mais c'est particulièrement important parce que non seulement les enfants mangent, mais ils parlent tout le temps de manger.
Nourriture.
Et les enfants, comme par une sorte de miroir, dévorent à leur tour ces livres. Comme si l'auteur leur proposait en reflet cette dévoration.
Et puis il y a aussi
un besoin à satisfaire.
Oui, c'est ça.
Vous voyez ce que je veux dire.
Et puis alors, il y a aussi, je crois, pour les lecteurs qui ne sont peut-être pas encore de très bons lecteurs, qui peuvent s'attaquer à des textes forts, il y a cette facilité, cette tranquillité d'être de toute façon sûr de comprendre, puisque chaque livre raconte la même histoire à peu de choses près. Donc, ils savent très bien qu'ils vont pouvoir lire un livre de plus sans effort.
Et en plus, on sait à l'avance. On connaît les règles du jeu. On sait forcément que les enfants vont gagner.
Je crois que c'est une des raisons du succès, c'est la survalorisation des enfants.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont confortés en lisant ce livre par une image très valorisante d'eux-mêmes, puisqu'ils sont, comme on l'a bien montré, remerciés par les adultes à la fin d'avoir dénoué le mystère, fait arrêter les bandits, découvert le trésor. Donc, cette survalorisation, ça doit avoir un effet très attrayant pour les enfants.
Oui. Et souvent, à cette survalorisation s'ajoute celle... leur survalorisation par leurs parents qui disent « Oh, mais lis, voilà tout ce qu'il a lu, il a lu tout le Club des Cinq. » Donc, on se croit vraiment lecteur. Et puis, le jour où on tombe sur un vrai livre, on s'aperçoit qu'on n'est pas lecteur parce qu'un vrai livre, c'est autre chose.
Comme vous l'avez dit, c'est le livre qui permet la lecture au second degré, chose qu'un Club des Cinq ne peut pas du tout offrir.
Alors, je crois qu'on pourrait conseiller quand même aux parents de les lire, ne serait-ce que pour constater l'image qu'on fait d'eux dans le livre.
Alors ça me semble important, et plus généralement, je crois qu'on peut conseiller aux parents de lire, autant qu'ils le peuvent, les lectures de leurs enfants, et de se garder de jugements préfabriqués, a priori, négatifs ou positifs, à propos de leur lecture. D'ailleurs, dans notre ouvrage, nous n'avons pas voulu, nous le disons, nous ériger en donneurs de leçons. Nous n'avons pas voulu penser pour les autres, qu'il s'agisse de parents, qu'il s'agisse de bibliothécaires, qu'il s'agisse de critiques, mais donner simplement des éléments d'information pour leur permettre de réfléchir.
Avec de nombreux extraits.
Avec nombreux extraits, ce qui était une manière de faire lire par fragments, par miettes, en quelque sorte, le Club des Cinq. Donc je crois qu'effectivement, ce conseil est à retenir.
Indiscutablement. Pour vous, bibliothécaire, ça a été une découverte des Clubs des Cinq.
Ah, tout à fait. Ce livre. Mais alors, justement, c'est là où on est un peu frustré, parce qu'on s'est dit, ah, enfin, quelqu'un s'est penché sur la question, va bien étudier les choses et va nous donner un jugement tranchant, net et définitif. Et voilà que nous sommes encore envoyés dos à dos, parce qu'on découvre des profondeurs insoupçonnées, une analyse tellement fine et tellement riche, qu'à nouveau, on est encore moins sûr de son propre jugement et on ne sait plus du tout quelle attitude il faut prendre.
Bon, je crois que c'est un progrès, je crois que c'est un progrès, madame. Parce que je parlais tout à l'heure de jugement préfabriqué. Il aurait été beaucoup plus facile pour nous, je vous l'avoue, d'adopter une attitude monolithique.
On aurait pu faire très facilement un pamphlet.
Ou un panégyrique, à la limite. Il est beaucoup plus facile d'être défenseur, d'être avocat de la défense, ou au contraire d'être procureur, de plus faire un réquisitoire, beaucoup plus facilement. Si nous avons travaillé dans la nuance, ce n'est pas par un goût immodéré de la dentelle. C'est essentiellement, je crois, par un souci de voir les choses comme elles sont. Et dès qu'on essaye de les voir comme elles sont, on est obligé de dépassionner le débat. Et on est obligé de dégager les éléments positifs qui permettent de comprendre pourquoi les enfants, malgré tout, sont accrochés par la série, et de mettre en évidence, évidemment, les éléments négatifs qui sont insupportables. Alors là, j'introduis votre propre remarque sur l'idéologie, puisque c'est peut-être
le je crois que on pourrait conclure en laissant nos auditeurs, justement, juger. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes très graves qui sont abordés sur le plan du racisme, des relations entre les êtres, ceux qui dominent et ceux qui sont toujours les serviteurs. Enfin, je crois que vous pouvez développer un peu cet aspect-là.
Comment fonctionne ce groupe des cinq ?
Je crois que ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce n'est pas tant la réalité psychologique des personnages que les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Je crois que c'est ça qui est tout à fait fondamental et qui permet une identification multiple. C'est-à-dire tout lecteur va trouver de quoi se satisfaire dans la mesure où chaque personnage est suffisamment caractérisé pour accrocher le lecteur, mais cependant entretient avec les autres tout un système de rapports très important. Comme vous le disiez très bien, il y a les dominants et les dominés. Et on a pris chaque sexe des deux côtés. On a un dominant masculin, un dominé masculin, un dominant féminin et le dominé féminin aussi. Bon, en plus, on a le personnage de Claude qui me paraît essentiel, de cette fille garçon qui revendique au fond... la virilité, mais surtout la liberté que procurerait le statut de masculin. Et je pense que ça a dû jouer aussi en grande partie pour le succès du livre.
Alors je reviens aussi également sur le problème du racisme de manière beaucoup plus précise. En fait, le racisme est plus localisé, plus net, mais plus localisé qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Il y a un problème. Ce problème, c'est celui des gitans.
Oui,
alors il y a une image des gitans, saurait multiplier les citations, choses qui me viennent à l'esprit, méfiez-vous des gitans, la forêt en est pleine. Simplement, ce problème des gitans se trouve concentré sur deux romans, donc ils sont à déconseiller plus que les autres. Les gitans, d'une part, le Club des Cinq et les gitans, et la locomotive du Club des Cinq. Deux titres donc qui posent un problème particulier parce que le racisme n'apparaît pas comme tel, il y a d'autres défauts idéologiques, mais n'apparaît pas comme tel dans les autres ouvrages. Alors à ce propos, je voudrais faire une remarque qu'on n'a peut-être pas faite jusque-là. On parlait de répétition, de similitude entre les romans. Certains ont dit quand on a lu un titre, on a lu tous les titres. En fait, les choses sont un peu plus complexes et c'est ce qui donne peut-être cette impression de perplexité que vous avez eue à la lecture de notre ouvrage. Les premiers titres d'Enid Blyton, tels qu'elle les a écrits, j'entends, en anglais, sont, de mon point de vue, de notre point de vue, acceptables. Les derniers titres français sont, de notre point de vue, fortement déconseillés.
Détestables.
Et alors, entre ou exécrables, comme dit Soriano, je ne sais pas. Oui. Non, mais entre les deux, vous avez toute une gamme,
une espèce de lente, pas tout à fait progressive, mais irréversible
dégradation. Progressive, oui.
Dégradation d'abord dans le cours même de la série d'Enid Blyton. Il est évident qu'au départ, elle en a écrit 2, 3, 5, 6.
Comme toutes les séries, d'ailleurs, voilà, ça commence toujours bien, et puis
six,
ça dégrade.
6, ça pouvait aller, les 6 premiers, ça pouvait aller. Si elle s'était arrêtée là, ça pouvait aller. Bon, elle a continué, et les derniers titres, au contraire, donnent véritablement une impression de vide, d'appauvrissement, d'épuisement bien naturel de l'inspiration. Première dégradation. Deuxième dégradation, passage de l'anglais ou français.
Les traductions.
En étudiant la traduction, on s'aperçoit que le texte devient véritablement méconnaissable. Parfois des contresens, on rajoute des choses, on en supprime d'autres.
Vous donnez quelques exemples absolument stupéfiants.
Alors ça, c'est curieux. Troisième dégradation, les remaniements. En français même, les nouvelles versions françaises sont parfois corrigées, remaniées par rapport aux éditions originales. On saute des passages et le texte, du coup, devient incompréhensible. Quatrième dégradation, elle disait tout à l'heure, la nouvelle série par rapport à la série authentique d'Enid Blyton. Et cinquième et ultime dégradation, une espèce de d'épuisement interne de l'inspiration de l'auteur français. Donc vous voyez, quand on rajoute tous ces facteurs, on s'aperçoit une sorte d'escalier qui plonge. Mais on ne peut pas comparer, on ne peut pas juger de la même manière les premiers Club des Cinq d'Enid Blyton, qui comportent un certain nombre d'éléments positifs, pas intégralement positifs, qui ont leur faiblesse, mais qui ne sont pas totalement vides, et les derniers romans qui sont beaucoup plus contestables.
Eh bien, c'est un sujet important, on tenait à y consacrer une émission, mais nous devons nous arrêter. Nous conseillons quand même à nos auditeurs de noter ce livre important, le dossier Club des Cinq, parce que je crois que, qu'il soit enseignant, bibliothécaire ou parent, il y a beaucoup à apprendre à la lecture de ce dossier. Et peut-être que ça les éveillera sur la manière de gérer la lecture de leurs enfants.
C'était le livre Ouverture sur la vie de Monique Bermond et Roger Bocquier, consacré aujourd'hui au dossier Club des Cinq de Marie-Pierre et Michel Mathieu Collat, édité dans la collection Lecture en liberté, aux éditions Manière l'école. Assistante de réalisation, Nicole Millienne. France Culture, il est 10h51. Gérard